10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Vous êtes né l'année où le mur de Berlin est tombé, donc il y a 30 ans. Vous avez grandi entre le 13e, 14e arrondissement et Saint-Germain-des-Prés pour vos études à Sciences Po, en apprenant ainsi donc que le communisme avait fini par céder au marché. Du soutien de Ségolène Royal en 2007 à La République En Marche. 10 ans plus tard, vous avez vous aussi fait tomber votre mur de certitude pour devenir un adepte du en même tempisme du candidat Macron. Plus de droite, plus de gauche, mais des uppercuts médiatiques. En 2018, vous êtes député à la veille du conflit des cheminots. Vous appelez le pays à sortir de la gréviculture. Vous voilà donc aujourd'hui, après que cette formule ait enflammé le débat, vous voilà donc aujourd'hui bien secrétaire d'État donc auprès du ministre de l'Éducation chargé de la jeunesse, cette jeunesse qui a du mal à adhérer au jeune président Macron. Vous nous direz où est le problème alors que l'on arrive à mi-mandat. Avec le SNU, le Service National Universel, vous mettez en œuvre donc la promesse du candidat Macron malgré les résistances un temps de l'institution militaire. Et en cette veille de 11 novembre où la nation rend hommage aux morts pour la France, vous nous direz si le SNU est un stage de patriotisme ou un mini-service militaire et comment surtout il va se développer. Enfin, quand il avait votre âge et élu dans les Hauts-de-Seine, comme vous, un certain Nicolas Sarkozy expliquait autour de lui qu'il serait président de la République. Emmanuel Macron, que vous soutenez, a lui souhaité un jour que les trentenaires français aient pour objectif d'être millionnaires. Donc on a envie de savoir quelle est votre ambition et pour vous interroger, Damien Fleureau de CNews, Cécile Cornudet, mais tout d'abord, on va donc vous faire regarder donc un extrait d'interview et de réaction à propos de la manifestation contre l'islamophobie qui va avoir lieu aujourd'hui.
Une manifestation, moi ça ne me gêne pas de manifester contre l'islamophobie, mais je ne me mettrai jamais derrière quelqu'un qui nie l'État français est un État raciste.
Je vois aujourd'hui annoncé Europe Écologie Les Verts, Benoît Hamon, la CGT, la France Insoumise, manifester bras dessous avec les frères musulmans. Ça me trouble.
Gabriel Attal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gêné par cette manifestation. Elle vous trouble, vous aussi?
Oui, même plus que ça. Vous savez, on est engagé avec le gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de haine, qu'il s'agisse de la haine anti-musulman, anti-chrétien, antisémite, évidemment. On a pris des mesures pour ça. Il y a une loi qui a été adoptée au
Mais
Parlement,
comment vous
notamment
cette manifestation,
contre
coup,
la haine.
Aujourd'hui,
elle est insupportable. Elle est insupportable parce que vous avez dans cette manifestation, et pas uniquement dans ceux qui vont être dans la rue, dans ceux qui ont signé l'appel à manifester, vous avez des gens qui incarnent aujourd'hui ce qu'est le communautarisme islamiste. Vous avez un ancien imam à Brest qui considère que une femme qui porte porte pas le hijab est une femme qui doit être violée. Vous avez des personnes qui disent aux enfants qui écoutent de la musique qu'ils vont se transformer en singes. Et vous avez dans le texte, dans l'appel à cette manifestation qui a été signé par des formations politiques, je pense à Europe Écologie Les Verts et à la France Insoumise, vous avez une critique des lois fondatrices de la République, des lois qui maintiennent notre cadre de laïcité, je pense à la loi de 2004 sur l'interdiction du voile en milieu scolaire, qui disent que ce sont des lois liberticides.
Mais Jean-Luc Mélenchon
dit
c'est pour la République, c'est une démarche républicaine. Non, il répondait ainsi à Marine Le Pen qui
le critiquait. Je crois que la France Insoumise et les cadres d'Europe Écologie Les Verts sont pris la main dans le pot de confiture clientéliste et communautariste.
En fait, les seuls qui ne sont pas tombés dans le piège à gauche, c'est le PS, vos anciens
oui,
amis.
Oui, mais moi je salue le fait que des formations politiques, le Parti Socialiste notamment, ne se soient pas joints à ces propos. Ça montre qu'il y a aussi des valeurs qui sont portées et que ces valeurs, elles tiennent encore dans ces formations.
Cela dit, est-ce que sur le fond, ça ne veut pas, c'est pas le témoignage d'une société qui est en train d'éclater sur ces questions?
Non, mais sur le fond, ça prospère sur un malaise qui existe. Et oui, il y a un malaise, il y a des musulmans qui se sentent discriminés, évidemment, qui le sont souvent.
Qu'on est avec eux.
On peut manifester contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination et de haine. Ça m'est déjà arrivé.
Il n'y a pas de contre-manifestation aujourd'hui, finalement. Vous auriez pu lancer un contre-appel?
Enfin, oui, c'est toujours possible de lancer des contre-appels. Je pense que l'important, c'est d'avoir des discours extrêmement clairs. En tout cas, moi, en tant que responsable politique, je ne pense pas que mon rôle, ça soit de lancer des manifestations, des contre-appels. C'est d'avoir un discours clair.
Mais est-ce qu'on peut
sur le fait que tout le monde a sa place dans la République, quelle que soit sa religion, du moment que sa religion n'empiète pas sur les lois de la République.
Pour comprendre mieux, à chaque fois que le président de la République prend la parole, d'ailleurs, sur ces sujets, il reste toujours très allusif et il parle des divisions qui nous minent, qu'il faut en permanence régler. Quelles sont ces divisions pour vous? Je reprends la question quand même de Cécile. On a le sentiment que cette société française n'arrive pas à se rassembler.
Mais le principal risque pour la société française, et ce qui mine le rassemblement dans la société française, c'est le communautarisme. C'est des personnes, des Français, qui ont le sentiment qu'ils vivront mieux entre eux que dans la République. Et toute notre action, elle vise à lutter contre ça. Évidemment, l'action qu'on mène dans les quartiers, pour que ce soit le droit commun qui s'applique dans tous les quartiers, que tous les Français se sentent pas simplement habiter le même pays, mais vivre le même pays, vivre la même réalité. C'est le sens de notre action.
Ce ne sont pas des mots, ça, franchement.
Non,
vous avez le sentiment que quand on se promène dans les quartiers de certaines parties de la France, qu'on vit le même pays?
Précisément non, c'est pour ça qu'on agit. Et si on pouvait transformer les choses en 2 ans, je pense que ça fait longtemps. En tout cas, j'espère que les mesures auraient été prises. Mais ce qu'on a fait pour les quartiers, par exemple, sur le doublement des fonds de l'ANRU pour la rénovation urbaine, la lutte contre l'habitat indigne, l'emploi dans les quartiers, notamment pour les jeunes, c'est très important pour moi, secrétaire d'État à la jeunesse, avec le dispositif d'emploi franc, avec le paquet qu'on met sur la formation des jeunes qui sont aujourd'hui éloignés de tout diplôme, de tout emploi et de toute qualification. Ça, c'est du très concret. Ça vise à ce que tous les Français aient le sentiment de vivre les mêmes réalités et d'être dans le droit commun.
On va en parler. Damien Fleurot.
Et justement, du très concret, est-ce que vous redoutez des listes communautaristes au municipal de mars prochain? On parle d'une 50aine de listes dans certains endroits.
Évidemment, c'est un risque qui existe aujourd'hui. On voit qu'il y a des velléités. Et évidemment, ce n'est pas acceptable dans la République.
Et comment est-ce qu'on lutte contre?
On travaille sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a des mesures qui vont être présentées par mes collègues du gouvernement. Puisqu'elles vont être présentées par mes collègues du gouvernement, je ne vais pas les déflorer.
Oui, vous les connaissez un peu quand même, vous pouvez nous en parler.
Parce qu'on sait que c'est très compliqué d'interdire le dépôt de listes qui ne se revendiquent pas comme communautaires, ce serait justement
trop
facile.
C'est très compliqué, donc il y a toute la question de savoir si on est capable de prendre des mesures en amont, mais il y a le risque que vous évoquez, il y a un risque constitutionnel, ou si on est capable d'avoir un contrôle des autorités préfectorales, d'identifier des listes qui se réclameraient d'une communauté, et à ce moment-là d'agir. Mais sur ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement sensible,
donc,
extrêmement compliqué.
Des annonces qui seront faites dans les prochains jours?
Je crois, oui.
Bruno Retailleau va être reçu par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, tout comme d'ailleurs Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France. Il réclame des mesures concrètes pour interdire ou pour qualifier ou donner des critères. Est-ce que vous pensez que ces critères vont être donnés là dans les prochains jours?
Mais moi, sur ce sujet-là, ce qui est très important, c'est que je pense qu'on peut travailler tous ensemble, par-delà les clivages. Et moi, je trouve ça très bien que Bruno Retailleau, que Xavier Bertrand, peut-être que des personnes issues de la gauche aussi, travaillent à cet objectif qui est de lutter contre le communautarisme dans la République et notamment à l'occasion des élections. Donc c'est très bien qu'on mette tout le monde autour de la table. Certains font des propositions. Évidemment, elles sont regardées de la manière la plus dépassionnée et dépolitisée possible.
Ils proposent notamment d'interdire le voile, les signes religieux pour les élus dans le cadre de leur mandat. Est-ce que ça, c'est une bonne piste?
Écoutez, moi, encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là. Je respecte aussi le périmètre ministériel de chacun. Il y aura une expression de mes collègues sur...
Edouard Philippe en avait parlé de lutter contre la déscolarisation des petites filles.
Mais ça, c'est un autre sujet. On avance beaucoup sur ce sujet-là du communautarisme à l'école. Et on avance très fortement. On a mis en place, Jean-Michel Blanquer a mis en place des outils pour identifier, faire remonter des situations d'atteinte à la laïcité, de communautarisme en milieu scolaire. On a maintenant un point qui nous est fait quasiment quotidiennement. On fait un bilan tous les trimestres. Et évidemment, on prend des mesures pour lutter contre ces situations. Et notamment, quand vous parlez de déscolarisation, sur la question des écoles hors contrat qui vont contre les valeurs de la République. C'est un vrai danger pour la République. Et évidemment, on a une action résolue en la matière.
Gabriel Attal, vous parlez justement de votre périmètre ministériel. On ne vous a pas vu à Chanteloup-les-Vignes, hein, après l'incendie d'un lieu culturel qui rassemblait justement la jeunesse, un lieu très important pour la population de ce quartier. C'était pas à vous de venir prendre la parole?
Il y avait déjà plusieurs ministres qui sont allés, Christophe Castaner, Nicole Belloubet.
Ça, c'est une réponse un peu administrative.
Non, c'est pas administratif.
C'est important ce qui s'est passé.
Bien sûr que c'est important. Et bien sûr que vous savez, moi je travaille sur la question des jeunes dans les quartiers avec Julien de Normandie, en charge de la politique de la ville, qui était à Chanteloup-les-Vignes. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de défiler de
ministres. Oui, mais parfois vous êtes un peu le ministre de bonnes nouvelles pour les jeunes, le SNU, tout ça.
On va en parler.
Un mouvement, quand même, dans plusieurs endroits, des jeunes qui prennent des policiers de front, etc. On ne vous a pas tellement entendu sur ce sujet.
Je me suis exprimé sur le sujet dans les médias. J'étais même sur une télé concurrente juste après ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes. Et précisément ce que vous évoquez, le service national universel. Moi, je pense et j'assume que c'est aussi une réponse à ce qu'on voit. Moi, je vois beaucoup de jeunes...
Contre le sentiment anti-flic de certains jeunes, le SNU...
Oui, mais globalement, sur la perte de repères et la perte de sens. Je pense que d'avoir ce moment de creuset républicain, de cohésion, où vous avez des jeunes qui, par-delà leurs origines sociales, géographiques, culturelles, se retrouvent autour des valeurs de la République. On leur fait vivre les valeurs de la République. On leur fait mesurer qu'ils ont quelque chose à apporter à la République, que ce soit dans une association, auprès d'un corps en uniforme...
Mais il y a un sentiment anti-flic aujourd'hui, chez les jeunes. Est-ce qu'on peut l'identifier?
Il y a une défiance chez une partie des jeunes, notamment une partie des jeunes dans les quartiers. Évidemment, sens de notre action, c'est de réconcilier aussi ça. Et vous avez une défiance de deux ordres. Vous avez des jeunes qui étaient sans doute embarqués dans des délits, dans des affaires trafics. Des trafics de stupes, par exemple. Et on sait qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans certains quartiers, comme ce qu'on a vu à Chanteloup-les-Vignes, et notre action résolue contre les trafics. On venait de détruire, de démolir à Chanteloup-les-Vignes un bâtiment qui était un peu le carrefour de deal dans la ville. Donc évidemment, il y a une réaction aussi à cette
action-là. Comment vous les qualifiez, ces jeunes qui sont justement, en tout cas, c'est plutôt ces personnes qui sont venues incendiés, qui cassent le mobilier urbain depuis des semaines également dans les autres villes de banlieue, en particulier aussi dans les Yvelines. Comment vous les qualifiez ?
Un jeune qui s'en prend à un équipement municipal, qui ensuite attend que des forces de l'ordre arrivent pour s'attaquer aux forces de l'ordre, c'est un criminel imbécile.
D'accord. Voilà. Vous avez
débat qu'on avait
augmenté la formule, c'est ça ? Vous l'avez amélioré ?
Non, je crois pas. Le Premier ministre a été très clair aux questions d'actualité au gouvernement, il l'a dit.
Vous comprenez que ça a été quand même surprenant comme qualification de la part du Premier ministre ?
Non, vraiment pas. Honnêtement, je ne le comprends pas qu'on ait un débat sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, ma réponse un peu...
Et c'est au-delà des mots, c'est sur la politique, peut-être un peu de populisme de la part
pendant
de la majorité sur ces questions-là.
On peut parler longuement, on peut avoir des débats de sémantique. Moi, je pense que c'est pas ça qui intéresse les Français et que c'est pas les débats de sémantique qui vont régler les situations, les difficultés qu'on voit sur le terrain. Et quand vous parlez d'angélisme, non. On augmente les forces de l'ordre dans ces territoires. On crée 10 000 postes de forces de l'ordre et on les flèche en priorité sur ce qu'on appelait les quartiers de reconquête républicaine. Où il y a besoin de plus dans ces 60 quartiers de forces de l'ordre et de réponses policières. Mais c'est aussi évidemment la prévention. Je veux dire, toute l'action qu'on mène dans ces quartiers, notamment via l'école, en dédoublant les classes. Vous avez aujourd'hui 300 000 enfants qui grandissent dans des classes dédoublées, à 12 élèves, qui ont plus de moyens, qui arrivent à apprendre à lire plus rapidement, qui vont s'épanouir et s'émanciper plus facilement. Ça permet aussi de répondre à ces enjeux-là.
Gabriel Attal, donc comment faire de la cohésion nationale, veille du 11 novembre. On se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la jeunesse, veille du 11 novembre. Des jeunes Français ont participé donc au service national universel dans le Nord. On en retrouve un.
Beaucoup de disciplines dans les domaines.
Surtout pour lui, là.
On s'est remis un peu dans le droit chemin, on était bien cadrés.
On s'était fait beaucoup d'amitié en très peu de temps.
On a découvert les corps en uniforme, les premiers secours, on a eu des intervenants qui nous ont parlé de l'Europe.
Dites donc, à les entendre, c'est formidable, hein, le SNI, la France rêvée, le nouveau patriotisme d'Emmanuel Macron. C'est bien le 21 novembre à Amiens que le président de la République va annoncer la généralisation du SNU.
Moi, je ne confirme pas du tout cette date, hein, évidemment.
Mais c'est dans pas
les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on interviendra pour annoncer le calendrier de généralisation. Je sais qu'il est très attendu, mais je ne peux pas aujourd'hui vous confirmer de date. En tout cas, demain, Emmanuel Macron, dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre, sera avec des jeunes du service national universel qui vont participer avec les porteurs de la flamme, comme on les appelle. Vous savez, ces personnes engagées qui, tous les soirs, vont raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Ça sera une très belle image, je pense, aussi sur l'intergénérationnel.
On le voit, c'est le temps des premiers bilans, peut-être pour vous. Combien ça va coûter, le SNU ?
Écoutez, dans les estimations qu'on fait actuellement, mais qui vont évidemment être affinées au fur et à mesure, ça coûtera entre 1 milliard et 1 milliard 5.
Vous cherchez peut-être à réduire notamment les coûts. Aujourd'hui, on dit 2000 euros par jeune. C'est cette fourchette.
Alors, par définition, on cherche toujours à réduire les coûts pour tout ce qu'on fait. Ça, c'est un mantra, ça guide notre action. L'important, c'est qu'on garantisse les objectifs du service national universel. Ce sur quoi je veux insister, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'on parle de coûts. Le président de la République a toujours assumé le fait qu'il y avait un coût, mais que c'est un investissement. C'est un investissement parce que quand on voit ce que disent les jeunes, quand ils disent que ça les a remis dans un certain cadre, que ça leur a donné des repères, que ça leur a appris aussi à respecter, à aimer les corps en uniforme qui défendent les Français, on voit qu'il y a un impact sur la société par rapport au débat qu'on avait précédemment, qui n'a pas de prix, j'ai envie de dire.
Et qui reste encore à gagner, parce que ce qu'on a vu souvent précédemment, c'est que ce n'est pas gagné du tout.
Bien sûr,
encore, justement.
Bien sûr, et c'est le sens du service national universel. La deuxième chose, c'est que grâce au service national universel, on peut aussi avoir des économies sur le long terme en France. C'est pour ça que c'est un investissement. Vous avez un bilan de santé complet qui est apporté à tous les jeunes dans le service national universel. Et qu'est-ce qu'on a vu en juin dernier, avec la première étape, on a vu des pathologies qui ont été détectées, qui ne l'avaient pas été avant. Une pathologie détectée tôt, qui ne s'aggrave pas, c'est des économies pour la sécurité sociale. On a vu des jeunes qui étaient décrocheurs, qui avaient arrêté l'école pour phobie scolaire ou délinquance, qui ont repris l'école à la rentrée, qui sont retournés sur le chemin de l'école parce que d'être dans un cadre de groupe avec des jeunes qui sont peut-être passés par les mêmes situations qu'eux et qui s'en sont sortis, ça leur a donné envie d'y aller. Et donc, ça, à terme,
donc ça va généraliser.
Quand est-ce à terme,
que ça va
c'est moins de décrocheurs et c'est aussi des économies. Un décrocheur, ça coûte entre guillemets 230 000 euros d'accompagnement en moyenne. Et donc, c'est aussi un investissement sur le
long
terme.
Donc, vous souhaitez évidemment que ça soit généralisé. Est-ce que ça va l'être? Quand est-ce que ça sera annoncé? On sait que le président de la République va parler bientôt, donc manifestement à la jeunesse, on va y revenir. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut le généraliser? C'est cette année-là qu'il faut le dire?
Avant que je sois nommé au gouvernement pour m'occuper notamment du service national universel, il était prévu qu'il soit généralisé en 2026. C'est le scénario qui avait été élaboré par un groupe de travail piloté par le général Daniel Menaouine, à qui je veux rendre hommage, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce sujet-là.
Malgré les résistances de l'armée au début, quand même. Hein.
Et le président de la République m'a donné mandat d'aller plus vite. Il souhaite qu'il soit généralisé plus vite que ce qui était prévu.
Mais qu'est-ce qui coince? C'est par exemple les départements qui doivent gérer les hébergements de ces jeunes engagés dans
le
SNU?
Il n'y a rien qui coince. Hein. La question, c'est de travailler, d'estimer ce qu'on est en capacité de faire. On est en train de finaliser ce travail-là. Et encore une fois, dans les prochaines semaines...
Cette question d'hébergement, elle est réglée?
La question de l'hébergement, elle est importante, mais elle n'est pas un frein. Moi, j'avais entendu beaucoup de personnes, par exemple, dire « Mais attendez, on va devoir construire des centres pour accueillir les jeunes. » Évidemment non. On a aujourd'hui beaucoup d'infrastructures qui permettent d'accueillir des jeunes. Vous avez des internats de lycées, vous avez des structures de tourisme social, vous avez des anciens centres de l'AFPA qui sont en reconversion, vous avez des bâtiments militaires qui peuvent encore accueillir des jeunes. Tout ça va être mobilisé et donc on n'a pas besoin de construire de nouveaux bâtiments pour le service national. Il y a une vraie question qui est celle de l'encadrement. Il faut un nombre d'encadrants suffisant. Parce que pour moi,
c'est
la dimension essentielle.
Aujourd'hui, c'est un encadrant pour 6 ou 7 aujourd'hui, pour 5.
C'est un encadrant pour 5 jeunes.
Et donc ça, vous voulez réduire le taux d'encadrement pour faire des économies?
Non, l'enjeu, ce n'est pas de faire des économies. On va regarder, mais effectivement, on a choisi de faire un encadrant pour 5 jeunes, ce qui est très élevé. C'est presque 3 fois plus que le nombre d'encadrants standards dans des accueils collectifs de mineurs. Et j'ai confié à l'INJEP, qui est un institut national de recherche sur la jeunesse, des chercheurs, des sociologues indépendants, de regarder comment se mettait en place le service national. C'est vrai qu'eux proposent de desserrer un peu à 1 pour 7, 1 pour 8, parce qu'il y avait beaucoup d'encadrants qui parfois n'avaient rien à faire.
Vous ferez votre arbitrage. On entend toujours qu'il faut qu'un président de la République parle à la jeunesse, parle aux jeunes. Vraisemblablement, il va se rendre à Amiens, donc le président de la République, le 21 novembre. On dit que ce serait pour un discours à la jeunesse. Est-ce qu'il en faut un, en fait?
C'est un vrai sujet, c'est une vraie question.
Et on attend une vraie réponse.
Oui, vous allez avoir une réponse. Moi, ce que je constate, c'est que les jeunes attendent qu'on s'adresse à eux, mais ils n'attendent pas nécessairement qu'on leur parle de jeunes. Les jeunes, ils ont envie qu'on leur parle du monde, qu'on leur parle de la France, parce que par définition, c'est eux qui resteront le plus longtemps en France et dans le monde. Ils attendent qu'on leur parle évidemment des questions environnementales, on l'a vu. Ils attendent qu'on leur parle de la question de la lutte contre les discriminations, des enjeux qui portent très fortement. Et le sens de notre action, et tout ce qu'on fait, notamment pour la question environnementale, ça s'adresse directement à eux. Et à chaque fois qu'Emmanuel Macron s'exprime sur ces enjeux-là, c'est aussi à eux qu'il s'exprime. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées récemment sur la question de l'environnement, qui font suite directement à la mobilisation des jeunes pour le climat.
Idée. On va y venir justement.
Oui, parce que c'est quand même la grande cause des jeunes en ce moment, le climat. Vous-même, d'ailleurs, il y a 6 mois, vous étiez dans une marche pour le climat. Oui. Comme si ces jeunes, en fait, ne manifestaient pas d'abord contre le gouvernement. Greta Thunberg, elle est très offensive contre les différents gouvernements. Est-ce que c'était votre place? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il faut apporter plus de réponses concrètes et vous avez été interpellé là-dessus? Parce que c'est vrai que concrètement, il n'y a pas encore grand-chose.
Alors d'abord, moi, j'assume totalement d'être allé à cette marche.
Vous y retourneriez, là?
Vous l'avez pas fait?
Je l'ai fait une fois.
Sur la deuxième
marche.
Oui,
je vais peut-être pas aller marcher tous les vendredis. Hein. J'ai du travail. Mais j'assume totalement parce qu'avant cette marche, finalement, je me suis dit, si je n'étais pas membre du gouvernement, je serais allé à cette marche naturellement. Donc la question, c'est est-ce que je suis devenu une autre personne tout d'un coup parce que je suis au gouvernement?
Ça paraissait un peu comme une récupération.
Non,
c'était
pas du tout.
Dirigé contre le gouvernement et vous y alliez.
Vous savez, on y allait. La presse se demandait où on serait. On a refusé de leur dire. Il n'y a pas eu de médias qui sont venus nous interroger pendant cette marche. Non, précisément, c'était important pour moi de marquer symboliquement aussi mon soutien aux jeunes qui se mobilisent. Moi, je demande en permanence à ce qu'on reconnaisse les jeunes qui s'engagent, à ce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui se mobilisent pour des thématiques très fortes dans le pays. C'était important pour moi d'y être. Mais ce que j'ai ressenti dans cette marche.
C'est pas une marche contre le gouvernement.
C'est une marche pour le climat, pour l'environnement.
Mais et au contraire,
moi,
contre le président.
Ce que j'ai trouvé très positif dans cette marche, c'est que c'était pas une marche contre, c'était une marche pour.
Vous avez pour qu'on agisse pour le climat, pour qu'on agisse pour l'environnement. Si vous interrogez les
jeunes,
ils pensent pas ça. Non,
ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une dimension très positive, très optimiste aussi, c'est-à-dire on peut changer les choses. Et moi, ma conviction, c'est que s'il y a une classe d'âge qui a le pouvoir de changer les choses dans le monde, c'est les jeunes. On l'a vu en se mobilisant, ils nous ont guidés aussi. Il y a un certain nombre de mesures qu'on a annoncées sur la question de l'environnement qui ont fait suite directement à leur mobilisation. Je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise, notamment de grandes entreprises, qui me disent on est en train de faire évoluer notre modèle, on est en train de faire évoluer notre responsabilité sociale et environnementale, parce que les jeunes actifs qui arrivent sur le marché du travail, ils ne veulent pas travailler juste pour
Gabriel
un salaire,
Attal,
ils veulent que l'entreprise
s'engage. Il faut parler un petit peu plus avec vos collègues, peut-être, au sein du gouvernement, parce que beaucoup de ministres nous disent en privé, mais on a un gros problème pour créer un récit, pour embarquer les jeunes avec nous, pour les rassurer sur l'urgence et la crise climatique, parce que, tout simplement, nous ne sommes pas crédibles. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
Ce qui est certain, c'est que...
Vous les sentez aussi.
Ce qui est certain, c'est que depuis 2 ans, s'il y a un sujet sur lequel on n'a pas convaincu, c'est celui de l'environnement. Et moi, je le déplore, parce qu'on a énormément travaillé, on a pris énormément de mesures. Je me déplace,
c'est pour cette
moi,
raison que vous redonnez le dossier à la Convention citoyenne qui se réunit actuellement.
Oui, c'est une dimension très importante, cette Convention citoyenne. Et merci d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, pas du tout.
À agir aussi.
Ça acte que pour avancer efficacement sur l'environnement, sur la protection de l'environnement, sur la transition énergétique, il faut le faire avec les Français. On a vu ce qui s'est passé sur la taxe carbone. On était, entre guillemets, pétri de bonnes intentions. On voulait réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire l'empreinte carbone en France. On avait cette proposition de taxe carbone. C'est pas passé parce qu'on ne l'a pas partagé avec les Français. Et la Convention citoyenne pour le climat qui se réunit en ce moment, vous avez 150 Français tirés au sort, qui sont représentatifs de la population. D'ailleurs, la première assemblée,
il y a quand même beaucoup de doutes.
Les jeunes sont représentés à mesure de ce qu'ils représentent dans le pays.
Il y a des doutes, on dit que c'est un peu une forme de gadget. D'ailleurs, Damien Fleurot va également poursuivre là-dessus. On sait que ce n'est pas très concret.
Oui, sur la question du bien-être animal, on sait que vous avez pris position sur ce sujet. Et d'ailleurs, peut-être un peu en opposition avec le ministre de l'Agriculture, vous n'êtes pas forcément très en phase à ce sujet.
Non, y a pas je ne sens pas d'opposition. Peut-être que c'est un sujet que moi, je porte de manière plus visible. Parce que c'est aussi une préoccupation très forte chez les jeunes, une préoccupation très forte pour moi. Je n'ai pas commencé à m'intéresser à ce sujet quand je suis arrivé au gouvernement. En tant que député, déjà, je m'étais engagé sur ces questions.
Vous avez des...
On discute beaucoup ensemble et on avance beaucoup ensemble. On se conseille des personnes à rencontrer.
Des mesures concrètes,
oui,
à un moment.
C'est en préparation. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de perspectives qui ont déjà été données. Je pense à l'interdiction du broyage des poussins mâles, qui était un enjeu très fort, qui mobilisait beaucoup de Français. Didier Guillaume a donné des perspectives pour qu'en 2021, je crois, on en finisse avec cette pratique. Il y a sans doute d'autres mesures qui seront annoncées dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est un sujet sur lequel on avance. On avance aussi parce que ça dit aussi, quelque part, notre conception de la société et de la manière dont on traite tous les êtres vivants sur notre planète. C'est un combat qui est très important et qui est aussi un combat sociétal.
Alors, vous avez donc été nommé apparemment également pour pouvoir sniper tout azimut, comme on dit, tirer dans tous les sens. On va le vérifier. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et notre invité au grand rendez-vous, Gabriel Attal. Question Damien Fleurot.
Oui, Gabriel Attal, cette semaine, on a assisté à un couac. Alors, je sais que vous reviendrez sur ce terme, sans doute, au sein du gouvernement, au sujet de la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, qui est en charge de ce dossier dans l'équipe gouvernementale, est contre les ouvertures faites par Édouard Philippe et Emmanuel Macron pour faire porter la réforme prioritairement sur les jeunes, ceux qui entreront demain sur le marché du travail. Écoutez le rétropédalage du haut-commissaire, c'était ce vendredi dans le Nord.
Mon rôle, c'est de favoriser le débat avec les citoyens, avec les parlementaires, avec les partenaires sociaux et avec même les journalistes. J'ai très clairement dit et affirmé qu'au moment où la décision serait prise par le président de la République et par le Premier ministre, elle serait mienne.
Est-ce qu'il peut continuer à mener les négociations, Jean-Paul Delevoye?
Évidemment, et surtout, on a besoin qu'il continue à mener les négociations. Alors ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce dossier. C'est celui qui, au sein du gouvernement aujourd'hui, le connaît le mieux. Vous savez, avec cette affaire de... Vous avez parlé de couac, moi, je trouve qu'on a fait beaucoup de mousse avec peu de savon. Franchement, il a exprimé une préférence. Les membres du gouvernement.
Vous n'avez pas de servir la langue de bois.
Il a précisé son expression. Vous savez, moi je me souviens du discours du Premier ministre au Conseil économique, social et environnemental, juste après la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye. Et le Premier ministre a dit toutes les portes sont ouvertes, notamment sur la question de la transition. C'est-à-dire quand est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui en activité, à partir de quand elles basculent dans le nouveau système. Il a dit que tout était ouvert et que la concertation, précisément, visait à définir la date de la transition. Et Jean-Paul Delevoye a dit dans cette interview, il a précisé ensuite ses propos pour préciser que, par définition, il suivrait les arbitrages. Il a dit qu'il avait une préférence pour une transition rapide.
Vous avez répété les éléments de langage, mais enfin quand même, vous le savez comme moi, qu'il s'est quand même fait recadrer par le président de la République, on l'a entendu, c'est public. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez de cette justement position qui consiste à dire on va quand même pas faire tout porter sur les jeunes et si on fait cela, ce qu'on appelle la clause grand-père, il n'y a plus de réforme.
Alors moi d'abord ce que je veux dire c'est que cette réforme j'y crois. Et que quand j'entends dire on la ferait porter sur les jeunes, cette réforme pour moi c'est pas un boulet,
c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais c'est une chance. Il a dit on pourrait le reporter aux nouveaux entrants sur le marché du travail.
Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un boulet de dire les pauvres ils vont porter cette réforme, c'est une chance pour eux, c'est une chance pour tous les Français qui la connaîtront. Pourquoi?
Qu'est-ce que vous pensez des propos de Jean-Paul Delevoye?
Non mais je fixe juste le cadre. Vous l'avez dit, je suis né l'année de la chute du mur de Berlin. Depuis ma naissance, il y a eu je sais pas une dizaine de réformes des retraites. À chaque fois on nous explique que c'est la dernière, que le système est en train de s'écrouler, qu'il est à bout de souffle. Et puis on y revient. Et le constat, aujourd'hui, dans ma génération, et je pense dans d'autres générations de jeunes, vous avez des jeunes qui ne croient plus au système de retraite, qui pensent qu'ils n'auront pas
mais
de retraite.
Pourquoi la défiance aujourd'hui, sur la réforme progresse dans l'opinion?
Mais aujourd'hui, vous avez une majorité de jeunes qui ne sont plus pour le système par répartition, qui sont pour le système par capitalisation. Moi, ça m'inquiète, ça. Et donc, il faut rassurer et donner une confiance aux jeunes sur le fait qu'ils auront une retraite. Et pour moi, cette réforme, elle le permet, parce qu'elle limite les inégalités.
Gabriel Attal.
Elle réduit les inégalités avec les femmes.
Pour bien comprendre.
Je suis assez passionné, mais parce que j'y crois profondément.
Non mais parfaitement, vous avez raison de ne pas être passionné, c'est très bien, mais pour bien comprendre, le projet donc, d'Emmanuel Macron était de dire on transforme profondément, on ne change pas un curseur ou deux, on transforme le système profondément. Ouais. Et là on voit bien que face à des difficultés, il y a une forme de recul. Est-ce que cette évolution n'est pas au fond une atteinte à votre crédibilité, votre capacité à réformer, à transformer le système? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a toujours pas compris ce que vous en pensez, vous.
Ce que j'en pense, c'est que, un, vous l'avez dit, Emmanuel Macron s'est engagé à transformer le système profondément. Et on transformera le système
profondément. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous dites?
Deuxième chose que je dis, c'est qu'on n'a pas de problème de crédibilité sur notre capacité à réformer, je crois. On nous a plutôt jusqu'à maintenant critiqué, certains, parce qu'on réformait trop et trop vite. Et troisième chose que je dis, c'est que moi, mon souhait, évidemment, c'est que cette réforme, on la fasse aussi vite que c'est possible.
Donc pas de clause de grand-père, y compris dans certains régimes spéciaux, vous êtes contre?
Je dis, il faut qu'on la fasse aussi vite que c'est possible. Possible, ça veut dire quoi? C'est ce qui est techniquement possible, et c'est ce qui est possible, ce qui est possible dans l'acceptabilité d'une réforme,
donc
dans un contexte social dont on voit qu'il est tendu.
Je ne rejoins personne. À des prises de position individuelles de tous les membres du gouvernement.
Je ne rejoins, alors je vais être très clair, parce que je ne rejoins personne. Moi, je suis dans le cadre de celui de tout membre du gouvernement. Le Premier ministre et le Président ont dit que tout était ouvert et qu'ils arbitreraient. Et moi, j'ai la conviction qu'ils arbitreront en fonction de ce qui est possible. Et ce qui est possible, c'est ce qui est acceptable aussi par les Français dans le contexte qu'on connaît.
Pourquoi le président a ouvert cette possibilité de la clause du grand-père dans sa dernière intervention sur RTL?
Mais parce qu'on est engagé.
Pour désamorcer la grève du 5 décembre?
Pour moi, c'est juste une totale cohérence avec la nouvelle pratique de pouvoir suite au mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national.
Si on nous a accusé, tout le monde va dire on veut la clause du grand-père.
On nous a accusé pendant deux ans de réformer de manière verticale, sans demander aux Français ce qu'ils pensaient et sans ouvrir toutes les possibilités. Et on a dit après le grand débat national, maintenant il va y avoir un acte 2. On va changer de méthode, on va donner plus d'ouverture pour le dialogue. On ne peut pas donner de l'ouverture au dialogue en fermant des portes dès le départ. Donc tout le sens de laisser des portes ouvertes, c'est de permettre qu'on dialogue et qu'on
discute. Alors justement, nouvelle méthode, nouveau dialogue, on a l'impression aussi que la nouvelle méthode, c'est un peu aussi les divergences. Hein. Donc, M. Blanquer sur le voile, Jean-Paul Delevoye, on l'a vu sur les retraites, Nicole Belloubet recadrée sur les quotas qui ne sont pas, dit-elle, sa tasse de thé. Dans la majorité également, donc, le député Lescure qui dit les quotas, c'est une fausse bonne idée. C'est quand même une forme de couac à répétition, en tout cas de divergence maintenant qui s'exprime. Il y a une fébrilité dans la majorité en ce moment?
Non, moi je ne sens pas du tout de fébrilité, franchement. En revanche, ce que je constate, c'est que un coup, on nous accuse d'être l'armée des clones qui disent tous la même chose, qui pensent toutes la même chose. Et quand certains font valoir une opinion, on explique que c'est un drame et que la majorité
en tout cas, ce n'est pas très apprécié au sommet exécutif. Ils préfèrent quand même que les choses soient...
Est-ce qu'il y a une seule personne dans la majorité, que ce soit au gouvernement ou au Parlement, qui est en désaccord avec la ligne politique, qui est celle du président et du Premier ministre? Non, il n'y en a aucune. Qui est des sensibilités? Il y a ici deux parlementaires avec moi, Céline Calvez, Florence.
Donc le débat peut se faire sur la place publique.
Ça leur arrive aussi
à la table du Conseil des ministres. Le débat peut se faire au sein du gouvernement sur la place publique.
Bah, ce qu'il faut, c'est garder une cohérence et c'est éviter qu'on perde beaucoup de temps à commenter des prises de position individuelles, mais à dire ce qu'on fait, ça, évidemment. Mais
parce que vous dites, on peut prendre avoir des prises de position libres, mais enfin, à chaque fois, il y a un recadrage qui part du plus haut niveau de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République. Donc, en réalité, ça ne plaît pas.
Mais je pense que chacun fait aussi attention à ce qu'il dit. Alors parfois, effectivement, il y a des parole qui crée du débat. Mais je peux vous confirmer que quand on est membre du gouvernement et qu'on vient sur un plateau, celui-ci singulièrement, on se dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on va dire. Parce qu'encore une fois, c'est aussi notre capacité à être audible qui est en jeu.
C'est chez Cornudet.
Jeudi prochain, il y a les manifs pour l'hôpital. Le 5 décembre, pour les retraites, on vient d'en parler. On est un an après les Gilets jaunes. Ça y est, c'est reparti. Vous n'êtes pas inquiet sur le climat social?
Il y a une mobilisation qui s'annonce pour l'hôpital, c'est un fait, parce qu'il y a une situation aujourd'hui qui est très difficile à l'hôpital. Moi, je veux vraiment rendre hommage à celles et ceux qui travaillent aujourd'hui, qui sont engagés, parce que c'est un engagement que d'aller travailler dans le secteur hospitalier, dans le secteur du soin.
Bon, et ça ne fait pas par cette crise. Comment cette crise va
une première réponse qui a été apportée par Agnès Buzyn, avec une réforme de fond structurelle, avec des moyens qui sont mis sur la table. Et évidemment, on voit bien qu'il y a une mobilisation importante et surtout qu'il y a des conditions de travail qui sont très dures pour des personnes qui sont aujourd'hui engagées dans le secteur hospitalier. Et donc, il y a une nouvelle réponse qui se prépare, qui sera sans doute annoncée dans les
prochains
jours.
Est-ce que l'État doit reprendre la dette
sur les retraites?
Là, il y a deux questions.
Pardon.
Je préfère la vôtre.
Oui, mais ça tombe bien. On va quand même continuer quelques instants. Pardon, Cécile. Est-ce qu'on vient comprendre, est-ce que l'État va reprendre la dette hospitalière comme on le lit dans le journal du dimanche aujourd'hui?
Je l'ai lu dans le journal du dimanche comme vous, et moi j'ai franchement pas d'informations à
et
donner.
Vous n'avez pas voulu poser la question à Agnès Buzyn avant de venir justement?
Comment? Non, et par ailleurs c'est évidemment pas à moi de l'annoncer ici. L'important c'est d'avoir une réponse à la mesure des difficultés qui sont aujourd'hui celles du secteur hospitalier. Et ce que je veux dire c'est que, évidemment, on n'est ni sourd ni aveugle. On se déplace quotidiennement sur le terrain. On rencontre des personnes qui travaillent à l'hôpital. On rencontre des Français qui sont usagers de l'hôpital. On voit bien quelles sont les difficultés. On cherche à y répondre. Il y a une première réponse structurelle dont on sait qu'elle changera les choses à moyen et à long terme. Mais moyen et long terme, ce n'est pas suffisant pour des personnes qui aujourd'hui sont dans des conditions de travail qui sont très difficiles. Et c'est pour ça qu'on va avancer avec Agnès Buzyn.
Cécile Cornudet.
Comment vous lisez le climat social aujourd'hui? C'est le retour des syndicats traditionnels, plus un esprit gilet jaune, insaisissable, violent. Est-ce que c'est cette alchimie des deux qui vous inquiète? Comment vous voyez les choses?
Il y a des tensions dans le pays. Et moi, ma conviction, c'est qu'elles ne sont pas nouvelles. Elles ont explosé au moment des Gilets jaunes, il y a presque un an. Et finalement, c'est le couvercle d'une cocotte minute qui bouillait depuis 10, 20,
elle
30 ans.
Elle bouille toujours.
Qui a explosé. Et oui, bien
les
sûr,
braises
ça continue.
Les braises sont toujours là, comme l'a dit le président de la République.
Évidemment, ça continue à bouillir. Et tout l'enjeu pour nous, ce n'est pas de refermer le couvercle en considérant qu'il faut passer à autre chose. C'est de répondre à ce qui s'est exprimé dans le pays structurellement. Et vous parliez d'une dimension importante. Moi, je pense que ce qui était essentiel après ce mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national, c'est aussi de réinstaurer des intermédiaires et du dialogue social et démocratique.
Donc, c'est bien que les syndicats reviennent dans le jeu, en fait.
Et c'est notre,
y compris
c'est
dans la rue,
notre souhait.
Du coup.
Oui, mais c'est important qu'ils soient des interlocuteurs crédibles, représentatifs pour le gouvernement et que le
mais
gouvernement
là, ils ont
travaille
pas
avec eux.
De très bonne composition. Il y a le sentiment, quand même, de vouloir bloquer le pays.
Mais en tout cas, on discute avec eux.
Est-ce que de ce point-là, vous allez pouvoir l'éviter?
L'important, c'est qu'on discute avec eux et c'est que toute la marge de manœuvre qui est donnée pour la discussion, tout le temps qui est donné à la discussion jusqu'au mois de janvier prochain, notamment sur la question de la réforme des retraites, il vise aussi à réinstaurer ce climat de représentation démocratique en France. Et ça, moi, j'y suis très attaché.
Vous dites janvier prochain parce qu'il n'y aura rien avant le 5 décembre, jour de la grève reconductible ou illimitée, notamment dans le secteur des transports.
Aujourd'hui, sur le calendrier de la réforme des retraites, ce qui est annoncé, c'est que la concertation en cours va jusqu'au début du mois de janvier, à la mi-janvier, qu'il y a une restitution à ce moment-là et des annonces
peu
ensuite.
Peu importe si le pays devait être bloqué peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, au mois de décembre.
Moi, je ne souhaite pas que le pays soit bloqué, évidemment, et les Français ne souhaitent pas que le pays soit bloqué. Et moi, ma conviction, c'est que les Français, ils attendent aussi qu'on avance sur cette réforme,
oui,
notamment sur la question des régimes spéciaux.
Ils évoluent mal dans les sondages, mal de votre point de vue, sur cette réforme des retraites. Si vous jouez l'opinion, aujourd'hui, en tout cas, elle n'est pas gagnée, l'opinion.
Et c'est qu'il faut convaincre, et on va continuer à le faire. Et c'est vrai que pendant la campagne présidentielle, notamment, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint Emmanuel Macron, qui ont soutenu son programme, son plan de transformation et de réforme nécessaire pour le pays. Et on a besoin que ces personnes, aussi soutiennent et rappellent leur soutien à cette transformation.
Alors, ce qui nous a frappé lorsqu'on a vu donc, le président de la République à Rouen, hein, c'est qu'il a été interpellé un peu de la même manière dont il avait été interpellé il y a un an lors de son itinérance dans l'Est et dans le Nord. Et ça préfigurait déjà les explosions de colère des Gilets jaunes à venir. Est-ce que vraiment cette question était importante quand on rencontre un membre du gouvernement? Est-ce que vous sentez aujourd'hui que cette colère peut repartir? Est-ce que vous craignez cette mobilisation de décembre?
Mais, enfin, moi, je sens
que beaucoup de ministres disent que c'est la réforme qui fait peur, on a peur.
C'est pas une question de repartir. Pour moi, il y a une colère et des inquiétudes qui sont toujours là. Et encore une fois, on a commencé à y répondre. Il y a eu des mesures très importantes qui ont été prises, notamment pour le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent. Il y a des réformes, il y a des mesures qui vont arriver. Je rappelle qu'à partir du mois de janvier, l'impôt sur le revenu va baisser pour 12 millions de ménages. C'est une baisse d'impôt colossale. On sera le gouvernement qui aura le plus baissé les impôts. On va continuer à agir. Il y a la Convention citoyenne pour embarquer les Français, leur permettre de faire des propositions très directement qui arriveront sur le bureau des assemblées et du
D'ailleurs,
gouvernement.
D'ailleurs, vous êtes pour un référendum ? C'est en train de remonter, cette histoire.
Ça dépend de ce qui est proposé. S'il y a des mesures qui transforment et bouleversent radicalement notre cadre de société, oui, je suis favorable à ce que, dans ce cas-là, un référendum soit proposé.
À la veille du test crucial des municipales, on se retrouve dans quelques minutes.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Gabriel Attal pour cette dernière partie du Grand Rendez-vous, secrétaire d'État auprès de l'Éducation nationale, chargé de la jeunesse, mais également engagé en politique. Vous avez dit dans une récente interview dans le journal Le Monde, les élections municipales seront une épreuve. Pourquoi ?
Parce que c'est notre premier test local. La République En Marche aujourd'hui n'a pas d'élus locaux sur ses propres couleurs. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, évidemment, mais c'est la première fois qu'on va présenter des candidats.
C'est un mot à double sens aussi. Hein. Une épreuve, c'est comme si déjà vous annonciez que ça ne va pas bien se passer.
Non, c'est pas comme ça que c'était dit. Une épreuve, parce que oui, c'est une forme d'épreuve, de test pour nous et de
les sondages
capacité à prouver.
C'est dur.
C'est très compliqué de faire des sondages sur des scrutins qui sont avant tout locaux. Et on voit bien que selon les villes, nous, ce qu'on veut, notre boussole pour ces élections municipales, c'est que les Français vivent bien dans leur commune. Et il y a des villes où on considère qu'ils vivront bien si le maire ou la maire sortant poursuit et on les rejoint.
Vous serez candidat ?
Moi, je serai candidat sur la liste dans ma commune à Vanves, où non seulement je réside, mais où je suis déjà élu conseiller municipal. D'ailleurs, il y a sur ce plateau la tête de liste Séverine Hédoux, qui sera tête de liste pour les élections municipales pour La République En Marche à Vanves. Et c'est très important parce qu'on va aussi beaucoup se mobiliser, et on a déjà commencé à le faire, pour que des femmes accèdent davantage à des responsabilités au niveau local. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 15-20% de maires qui sont des femmes. Il faut qu'on progresse là-dessus. Et moi, je suis fier d'être sur la liste d'une femme engagée dans la vie active, engagée aussi pour les parents d'élèves à Vanves, qui va porter cette liste.
En fait, il y a assez peu de têtes de liste au sein du gouvernement. À l'heure actuelle, en fait, il n'y a même que Gérald Darmanin qui s'apprête à être tête de liste pour ce prochain scrutin. On a le sentiment que la consigne du président n'a pas été très écoutée. Prenez des mandats locaux, ancrez-vous, ne restez pas hors sol.
Prenez des risques.
Le président, il nous demande d'être sur le terrain et d'être à portée d'encouragement parfois, d'engueulade, de barbe de temps en temps.
Mais ça
passe pas forcément par un scrutin local. Moi, je pense qu'il y a des ministres qui seront sur des listes. Il y a peut-être des ministres qui seront en tête de liste. C'est le choix qui appartient à chacun. Moi, je pense qu'on peut aussi être présent sur le terrain, entendre les Français sans être élu. Et moi, ce que je constate, c'est que le fait d'être encore élu local en étant au gouvernement, je le vis comme une chance. C'est une chance parce que ça permet de mesurer très rapidement les décisions qu'on prend ou des chantiers sur lesquels on s'engage sur le terrain. C'est des remontées très rapides et c'est la capacité à être en permanence en prise avec son électorat.
Damien Fleurot.
Oui, Mickaël Darmon, vous parlez d'une épreuve pour les municipales, notamment à Paris. Alors, comment est-ce que vous observez ce duel fratricide qui a lieu en ce moment
très
entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, ancien monde.
Très ancien monde.
Je le regrette. Je ne sais pas si c'est ancien monde. Vous savez, dans l'ancien monde,
fratricide,
dans l'ancien monde, il y en a un des deux qui aurait été exclu. Notre spécificité, c'est quand même que on n'a pas exclu.
Vous êtes suffisamment optimiste pour vous permettre d'envoyer deux candidats, c'est ça,
Cédric Villani de La République En Marche, parce que on croit encore, on espère encore qu'un rassemblement est possible.
Donc la désunion fait la force pour vous.
Non, au contraire. Je pense qu'il faut rassembler, mais rassembler en excluant, c'est pas la meilleure solution.
Est-ce que vous-même, par exemple, vous parlez à Cédric Villani, est-ce que vous lui envoyez un message en lui disant « reviens dans le giron »
Je pense pas que ça soit mon rôle. Moi, je connais bien Cédric Villani, on était parlementaires ensemble, on a travaillé sur des dossiers ensemble. Il a lancé sa campagne il y a quelques semaines. Je pense que dans quelques semaines, quelques mois, il y aura des discussions. En tout cas, je l'espère. Je ne vois pas comment on peut gagner en étant divisé, désunis. On peut toujours se rassembler après le premier tour.
Est-ce que le rassemblement n'aurait pas été possible si Benjamin Griveaux avait plus occupé l'espace, montré qu'il pouvait y arriver ?
Moi, je crois que c'est ce qu'il fait. Et d'abord, il a Une boussole, c'est celle du rassemblement. Vous avez aujourd'hui des maires d'arrondissement qui viennent de la droite, comme Delphine Burkly dans le 9e arrondissement, de la gauche, comme Frédéric Calandra dans le 20e, qui ont rejoint Benjamin Griveaux. Ils rassemblent des personnes issues de la société civile à Paris, des élus municipaux à Paris.
On va beaucoup regarder Paris, bien évidemment, ce sera un symbole. On ne va pas se mentir, en petit comité, beaucoup à l'Élysée disent Hidalgo, aujourd'hui, Anne Hidalgo, a toutes les chances de remporter ce scrutin. Qu'est-ce qui doit permettre éventuellement d'inverser ce pronostic ?
Moi, je pense que le temps des projets au mois de janvier va être très important. Je pense que Benjamin Griveaux va présenter son projet, qui est un projet d'alternance pour Paris, qui répond aux attentes concrètes des Parisiens. Ce que montre un certain nombre de sondages, c'est qu'une majorité, une grande majorité de Parisiens ne souhaitent pas que l'équipe actuelle soit reconduite. C'est donc un vrai enjeu de rassemblement qu'il nous faut adresser.
François Bayrou, qui ne s'est toujours pas prononcé, ça pourrait être
une voix
qui compte
pour soutenir Benjamin Griveaux.
Mais c'est la démonstration qu'il faut que Benjamin, et c'est ce qu'il fait, continue à convaincre de la pertinence de sa démarche et de son projet. Et c'est ce qu'il fait. J'étais en meeting avec lui il y a quelques jours pour parler notamment des questions de jeunesse. Et je pense que ça va être aussi une dimension importante.
Cécile Cornudet.
À Paris comme ailleurs, François Bayrou, on le voit, n'est pas d'accord avec la façon dont la République En Marche gère ses municipales. Édouard Philippe non plus. Des marcheurs locaux non plus. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans la façon dont LREM gère ses municipales ?
On parlait tout à l'heure des preuves. La République En Marche, c'est un mouvement très jeune qui a été créé en 2016, qui n'a pas gagné de ville sur son étiquette et qui aborde ces élections avec une forme de page blanche. On est engagé avec des personnes issues des Républicains, issues du Modem, avec le Modem, qui eux sont ancrés localement depuis des années, qui ont des élus locaux, qui ont des histoires personnelles avec certains maires. Donc forcément, à certains endroits, ça peut frotter. C'est une évidence. Mais moi, ce que je constate,
il y a des symboles, Gabriel Attal,
du bureau exécutif,
François Patriat, sénateur, La République En Marche,
dans l'écrasante majorité
du bureau exécutif.
Tout le monde s'entend.
Oui, mais quand François Patriat claque la porte de ce bureau exécutif, c'est un marcheur historique. Il a soutenu le président de la République très tôt. Il est sénateur, il est écouté.
Oui, bien sûr qu'il est écouté. Il y a peut-être eu des situations
des arbitrages
locales.
Il n'aurait pas fallu dire on fait l'impasse en fait sur ces élections. On voit au coup par coup et voilà, c'est tout le monde aurait compris comme De Gaulle en 58 que c'était pas possible.
Non, moi, je crois pas du tout parce que ces élections c'est des élections du quotidien pour les Français et que notre ambition de transformer le pays elle se porte aussi au niveau local. Ensuite parce que il y a beaucoup de mesures qu'on prend au niveau national, on le voit tous les jours. Qui ont vocation à transformer la vie des Français et qui ne s'appliquent pas toujours dans les
républiques. On va voir aussi.
Donc tout ce qu'on pourra faire pour
l'ADN de la République En Marche, ce n'est pas le scrutin local. C'est,
mais pourquoi
c'est parce que justement, vous composez dans certaines villes avec des majorités différentes, de droite, de gauche, du centre.
Mais
et donc, du coup, l'étiquette.
Précisément parce qu'on est attaché au local et à l'intérêt général local. On pourrait partir dans des postures en se disant on ne va pas avec tel parti politique, pas avec tel autre. On veut juste que ça marche pour les Français dans leur commune. Et donc, effectivement, on a une posture et une approche extrêmement pragmatique des choses.
Vous avez aussi un enjeu de relais de la politique, bien entendu, gouvernementale, oui. Du projet présidentiel,
et d'application,
de
nos réformes. Et je veux juste rajouter un point. Il y a une dimension qui sera très importante. Moi, je suis en charge de la jeunesse et je veux ici lancer un appel à tous les jeunes qui sont intéressés par ce qui se passe dans le monde, qui ont eu parfois leur première expérience d'engagement avec la mobilisation sur le climat. Moi, je les appelle vraiment à s'engager pour ces élections municipales. De même que j'appelle les candidats à intégrer des jeunes sur leur liste. Aujourd'hui, les jeunes, c'est 20 ou 30% de l'électorat, c'est 4% des conseillers municipaux. Oui. On peut vraiment aller plus loin. Nous, on a investi des jeunes. Il y a ici avec moi Alexis Isard, qui a 27 ans, qui est tête de liste à Savigny-sur-Orge. Et c'est aussi un engagement très fort qu'on va porter de permettre à des jeunes d'accéder à des responsabilités au niveau
vous
local.
Vous citez vos amis comme on fait depuis des années, c'est très bien. Mais simplement, moi, ce que je voudrais comprendre, vous dites appel aux jeunes pour rejoindre vos troupes. Mais on voit aussi que les investitures se font à l'aune de critères, de calculs politiques, d'alliances. Est-ce que ce parti, La République En Marche, ce mouvement, doit devenir justement un parti classique, un appareil pour vous préparer aussi aux élections à venir et en particulier celles de 2022 ou rester une sorte d'association un peu nébuleuse sur on fait la politique autrement?
Moi qui viens d'un parti classique, comme vous l'avez dit, le Parti Socialiste, j'y ai été jusqu'en 2016. Évidemment, je ne souhaite pas que La République En Marche se transforme à ce qu'on appelle un parti classique, en tout cas comme l'ont été les partis politiques auparavant.
Mais ça c'est investit pour ça que déjà je suis parti de manière verticale, hein, comme on le voit.
Bah, vous ne pouvez pas d'un côté nous dire vous êtes comme les autres partis, et de l'autre,
est-ce que vous voulez devenir un autre parti ? Quelle direction ça prend ? Moi, je dis rien, je pose la question. Quelle direction ça doit prendre pour vous ?
la direction que ça doit prendre pour nous, c'est garder cette spécificité qu'on a, qui est une spécificité de très grande ouverture. Vous pouvez adhérer aujourd'hui à La République En Marche en étant membre d'un autre parti politique. Vous pouvez adhérer à La République En Marche pour venir vous engager sur des sujets en particulier sans forcément vous retrouver embarqué dans le processus de La République En Marche. Donc cette ouverture. Et en même temps, il faut qu'on ait une organisation qui nous permette à tous les niveaux, et notamment au niveau local, d'avoir une vie démocratique interne. Et il faut que ce parti puisse proposer, faire remonter des idées, on y travaille, c'est-à-dire que ça soit aussi un lieu de production d'idées, de réflexion. Ça peut l'être d'ailleurs dans l'optique des prochaines élections. Il y aura des élections régionales, départementales, nationales. Et donc c'est l'enjeu pour moi.
Justement.
Le duel de 2022 qui se profile entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en tous les cas, c'est ce que disent les sondages aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, dans la majorité, estiment qu'il ne faut pas jouer avec le feu, le coup du duel permanent avec le Rassemblement national ? Le match au retour de l'ancien scrutin présidentiel.
Moi, je ne me résous pas à un duopole en politique où la seule alternance à ce qu'on porte serait le Rassemblement national. Moi, je pense que notre pays, les Français, ils ont besoin d'alternatives démocratiques, républicaines, qui ne soient pas celles du Rassemblement national.
Il faut faire une grande coalition, un bureau de liaison de la majorité, comme on l'entend.
Non, mais ça, bien sûr, s'agissant de la majorité, on y travaille. Mais moi, je pense qu'il faut y compris que d'autres formations politiques...
Donc, élargir de quel côté
qu'on continue... Non, mais nous, on est dans une logique de dépassement permanent. On cherche en permanence
à, droite, surtout, quand même,
à dépasser. Non, vous avez eu il y a quelques jours un appel qui a été lancé, l'annonce de personnalités d'élus, notamment d'élus locaux, de gauche qui ont rejoint la majorité. Donc cet élargissement, il se fait des deux côtés.
On voit bien qu'Emmanuel Macron est en train de travailler, de continuer à vouloir fracturer la droite. Hein. L'exemple récent de l'interview dans Valeurs Actuelles sur les questions d'immigration montre bien cette intention de parler à cette partie de l'électorat français.
Non, j'ai pas du tout cette analyse et cette lecture-là. D'ailleurs, quand vous regardez les études d'opinion, quand vous discutez avec les Français, l'immigration, c'est pas un sujet qui polarise entre la droite et la gauche chez les Français. Peut-être chez les responsables.
Alors pourquoi il en parle autant, peut-être chez les responsables depuis le mois de septembre.
Mais parce que c'est un sujet qui concerne les Français. Que les Français attendent qu'on agisse sur ce
ça
sujet-là.
Ça fait pas monter Marine Le Pen regardez... dans les sondages, elle progresse.
Mais Marine Le Pen, elle progresse depuis des années dans les sondages sur quoi ? Sur la certitude qu'elle essaye d'instiller dans l'esprit des Français que personne n'agit sur cette question de l'immigration. Et sur des faits qui sont que notre pays n'a pas été très efficace sur ce sujet-là depuis des années. La meilleure manière d'empêcher le Front National de prospérer, c'est de montrer qu'on est efficace et clair sur nos
Qu'est-ce
objectifs.
Qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes qui disent « Moi, je ne peux pas voter maintenant Emmanuel Macron, même si c'est pour faire barrage à Marine Le Pen ?» Il y a une progression.
En particulier ceux du premier tour qui se sentent déçus, ceux qui sont venus de la gauche, qui disent « Mais ça ne va plus, on ne se reconnaît plus. »
Mais vous savez, il y a un enjeu pour nous qui est de convaincre les Français dans leur majorité que ce qu'on fait est en train de transformer le pays dans la bonne direction, s'y a-t-elle. Il y a quand même 300 000 chômeurs de moins depuis deux ans. On a créé 500 000 emplois. Il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment en France. On met les moyens pour que la France soit à nouveau une nation qui produit, qui éduque ses enfants et qui est exigeante dans la transition énergétique.
Vous entendez ces doutes ? Vous entendez
bien sûr, doutes. Mais je les entends au quotidien. Et j'ai des personnes autour de moi qui doutent. Et on est à l'hémistiche, comme dit le président de la République. On est à la moitié du quinquennat. Et on a encore une moitié de quinquennat pour convaincre. On a pris des réformes absolument colossales depuis deux ans. Il faut maintenant qu'elles produisent leurs effets. Et moi, j'ai la conviction qu'elles vont produire leurs effets, qu'elles étaient nécessaires et qu'on est en train de mesurer concrètement que ça change les choses, même si évidemment, on souhaite que ça aille plus vite.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Gabriel Attal.